Ce qui me mène à vouloir discuter avec vous, chers invités, de... Bon, il n'y a pas que la salle maintenant. C'est sûr qu'en tant que cinéphile, je pense qu'on est trois cinéphiles qui aimons voir... Quatre, pardon, c'est vrai, on est quatre. Qui aimons voir les films en salle. Je veux dire, je pense que c'est légitime d'aimer s'enfermer dans une salle obscure avec un grand écran et du son de qualité. Mais pour la distribution, il y a évidemment le secteur DVD, Blu-ray, qui est maintenant assez important. J'ai vu qu'il y a énormément de distributeurs, je pense justement à E1, qui achètent beaucoup de films... qui sont présents à Cannes, des films qui sont quand même attendus par les cinéphiles, qui les sortent ni en festival, pas en festival du tout, pas en salle, puis il y a une sortie DVD qui passe complètement inaperçue. Je trouve ça triste. L'exemple d'un des récents films de Ken Loach qui s'appelle Looking for Eric, qui est arrivé sur les tablettes un peu sans qu'on l'attende. En fait, on l'attendait plus du tout, puisqu'il n'avait pas été au festival. Je crois que c'est un problème avec Wild Bunch, le vendeur international, mais bref. Donc, le DVD qui commence à prendre énormément de place, j'ai l'impression, compte tenu des cinémas maison, etc. Comment on aborde ça en tant que distributeur? Je veux dire, on fait... Bon, je sais, Stéphanie, que tu fais des super beaux coffrets, je sais que ça doit te coûter énormément d'argent pour les DVD que tu produis. Est-ce que ça fonctionne?
Pas autant que j'aurais voulu, non. Non, en toute sincérité, j'atteins pas les chiffres que je m'étais atteint... pour la rentabilité, donc ce n'est pas rentable. Pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est d'avoir le bon réseau de distribution. E1 peuvent se permettre de sortir un film sans buzz, sans publicité ou quoi que ce soit, même un très bon film. Et puis ça va quand même faire des bonnes ventes en DVD, tout simplement parce que c'est E1 qui contrôle le réseau de distribution DVD à travers le Canada. C'est pas exactement un monopole, mais c'est proche du monopole, la situation. En tout cas, E1 contrôle, je te dirais, 80% du marché facilement au niveau des ventes. Si t'es pas avec E1, il y a d'autres possibilités. Tu peux être avec d'autres distributeurs, comme moi, je suis avec Distribution Select, tu peux être avec DEP. Tu peux aussi essayer de faire les ventes par toi-même. C'est ce que j'ai fait pendant ma première un an et demi d'opération. Et puis, mais bon, j'ai pas eu le choix que de me trouver un distributeur indépendant à un moment donné, parce que de un, c'était énormément de travail de vendre à travers tout le réseau de distribution par moi-même. Et puis aussi parce que pour rentrer dans certains magasins comme HMV, comme Archambault, t'as pas le choix que de faire affaire avec ces gros distributeurs-là. C'est comme ils veulent pas s'ouvrir de nouveaux comptes. Ils veulent pas compliquer leur comptabilité et tout ça. Mais même ces distributeurs-là, je me rends compte de faire affaire avec Distribution Select par rapport à E1. Ça fonctionne pas aussi bien. J'aurais eu la possibilité de me mettre avec E1 au tout début. Les conditions de paiement, tant au niveau du prix unitaire qui voulait m'offrir que des délais de paiement, ça me plaisait pas. Donc, j'ai dit non, mais je me rends compte au bout du compte que finalement, si tu veux être capable de rouler, tu n'as pas le choix que d'être avec eux. Si tu n'es pas avec eux, tu roules sur la route de campagne à côté. Ouais.
Mais ça, en même temps, c'est un peu fondamental aujourd'hui de sortir des DVD d'une manière ou d'une autre.
Ouais.
Est-ce que tu fais affaire avec d'autres modes de distribution, avec peut-être Mubi, qui est la plateforme...
Oui, je fais affaire avec Mubi, mais franchement, je pense qu'on est 10 au Québec à aller sur Mubi. Ouais.
Donc 4 ici.
Oui, c'est ça. Non, je pense qu'avec le fait que maintenant, on va pouvoir avoir accès à Mubi par PlayStation, je pense que ça va s'améliorer. Mais pas tous mes films, mais pas les plus récents, là, mais ouais, sinon, j'ai comme 6 films sur Mubi. Et puis, non, ils sont pas énormément vus. C'est sûr qu'il y a Netflix, je suis en discussion avec eux. Il y a la VOD de Vidéotron, avec qui c'est très facile de faire affaire. Bien que leur interface, vraiment, faut qu'elle se fasse moderniser, finalement, je pense que... est un petit peu vieille, donc surtout avec la nouvelle compétition des interfaces plus web, super efficaces, ça va peut-être être un petit peu un petit peu difficile, mais...
Est-ce que l'évolution technologique n'aidera pas aussi à ce que Evocative Film ait son propre espace de VOD en parallèle de tous ces autres réseaux-là qui sont indispensables pour que le film se fasse connaître, mais que tu les vendes ou que tu les loues directement sur ton site
Ouais, que je le contrôle, ça serait vraiment super, mais c'est très cher, hein?
C'est très cher encore.
Oui, il y a un coût technologique qui est immense. Ça, c'est quelque chose, je me rends compte, quand j'ai des discussions avec le monde, le monde ne se rend pas compte. Tu sais, on a tellement l'impression que l'Internet, c'est gratuit. Faire ton propre site Internet, ça coûte rien, tout ça. Mais c'est pas vrai si tu veux avoir un beau site Internet. C'est quand même assez coûteux. Mais il y a un coût technologique immense par rapport à l'Internet. Pour mettre ton film sur iTunes, le coût de conversion, c'est 1 000 $. Donc, un gros film, 1 000 $, il n'y a rien là. Mais pour moi, d'aller payer 1 000 $ pour un film, pour le mettre sur iTunes, mais peut-être que ça va super fonctionner, puis peut-être que...
J'imagine qu'ils prennent une cote en plus sur les locations et les ventes.
Ah ben oui, évidemment.
Les logiciels propriétaires, c'est un type de conversion qui marche qu'avec...
Mais iTunes, ça a été un peu un scandale quand ils ont lancé leur plateforme, ils ont vraiment fait un appel aux indépendants. Venez nous voir, la VOD, on va tout régler. Mais en fait, iTunes fait affaire avec un sous-distributeur. Donc, c'est même pas iTunes même avec qui tu fais la business. Et ce sous-distributeur-là devient une autre personne dans la ligne qui va prendre un pourcentage. Donc, en fait, dans tous ces trucs, parce que tu le dis bien, Stéphanie, tu sais, l'Internet, premièrement, c'est ça, c'est pas gratuit. Ça peut non plus ne pas être cher. Je pense qu'au niveau, à un moment donné, quand tu as un format, c'est toujours le même, tu sais, le même... T'sais, on n'est plus à faire 1 000 DVD, là. On n'a plus ce coût-là, plus pratique. Par contre, il y a d'autres coûts. Mais ce sont des coûts de structure. Des coûts d'infrastructure. Mmh. Et c'est là qu'il faudrait du financement. Parce qu'en fait, iTunes a le même problème. Parce qu'en fait, iTunes avait répondu à ses détracteurs en disant « Écoutez, on est 6 dans l'équipe, là. On peut pas. » Tu sais, à un moment donné, on a un problème d'infrastructure qui s'appelle... Puis c'est la même chose. Puis ça, j'ai l'impression qu'à un moment donné, aussi, des distributeurs, puis même les festivals, je suis sûre que c'est... À un moment donné, puis du financement d'infrastructure, c'est pas du 6 mois, là. C'est du 5 ans. C'est du 10 ans, c'est du long terme. Puis en ce moment, on n'a pas, au niveau, si on parle de financement public, parce qu'on vit dans une culture de financement public, on n'a pas ça. On n'a pas ce financement de structure.
Mais ouais, cette année, le Festival du Nouveau Cinéma, ça fait 2 ans, je crois, que vous faites affaire avec Québécois, et il y avait des films des années passées et de cette année qui ont été mis sur vidéo on demand.
Ouais, sur Illico.
Vidéo sur demande, pardon. Sur Illico. Est-ce que ça a fonctionné?
Alors, on n'a pas encore les résultats, puisque c'est une fenêtre de 3 mois. On les aura en janvier. Je sais qu'il y a...
En tout cas, moi, personnellement, je reçois mes chiffres toujours comme un mois plus tard. Donc, en fait, je devrais recevoir les résultats de la VOD pour la merditude des choses, comme dans une semaine ou deux. Là, donc, j'ai hâte de voir...
On a déjà eu les résultats, nous, pour Deux fois une femme, aussi, qui, apparemment, est un des 10 films qui marche le mieux en VSD. Donc, il fait partie de la sélection du Festival du Nouveau Cinéma. Donc, ça marche, visiblement. Je ne veux pas trop m'avancer avant qu'on ait les chiffres finaux sur tout ça. Mais oui, non, justement, c'est la démarche du festival d'aller vers la VSD, d'aller vers, pareil, tout ce coprod aussi, les structures de financement par Internet. C'est une manière de dire qu'il n'y a pas que la salle de cinéma, qu'on va essayer de trouver des solutions pour faire vivre les films autrement. Je pense quand même que la démarche d'Iwan de sortir les films directement en DVD ou de sortir les films directement en VSD, c'est évidemment, on ne peut pas se passer de ces plateformes-là, mais ces plateformes-là ne pourraient pas vivre s'il n'y avait pas de sortie salle quand même. La sortie en salle... C'est en plus, on vient tous de générations, qu'on a tous grandi avec les VHS. C'est implanté chez nous qu'un film qui sort directement en VHS, en DVD, c'est pas un film qui mérite d'être en salle. Voilà. La sortie salle, elle reste, ça va peut-être évoluer, mais elle reste encore aujourd'hui pour la génération des, 30, 50, synonyme de. D'un film artistique, d'un film qui a un gros potentiel.
Mais non seulement ça, c'est la seule chance de bâtir une revue de presse aussi.
Exactement, exactement. Mm-hmm. Ouais. Donc c'est ça, on parle de toutes ces différentes plateformes, je pense quand même que c'est pour ça qu'on revient toujours, les distributeurs reviennent tout le temps à la salle de cinéma et à l'importance d'avoir un réseau de salles de cinéma au Québec et de le faire vivre. C'est que si on a juste un marché DVD, genre, y a tellement de sorties DVD, c'est tellement facile de sortir un film en DVD pour un énorme distributeur que voilà, le marché est complètement noyé. La salle de cinéma, c'est là où on voit un vrai travail éditorial sur le film, où on voit le vrai travail des distributeurs indépendants, les choix éditoriaux, et puis voilà, où on voit qu'il y a des êtres humains derrière qui regardent, qui sont un distributeur qui va être un vrai prescripteur de films, qui va être le premier cinéphile et qui va avoir envie de partager. En DVD, on ne partage pas, c'est à usage unique, on est seul avec son film et puis...
Il y a eu un exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a 2 ans, je crois, sur le dernier film de James Gray, Two Lovers, qui était sorti directement en VSD aux États-Unis. Et ils ont eu des plaintes et des problèmes. Et ils ont retiré pour le sortir en salle, mais 1 an après sa projection à Cannes. Donc, le film est de... je ne sais pas si le film a fonctionné. Je sais que c'est Alliance qui l'a distribué ici, aux États-Unis. Je ne pourrais pas dire... je pense que c'était Focus Features qui produisait. Donc, je ne sais pas trop qui est-ce qu'il distribuait. Mais ils ont vraiment retiré le film de la VSD, à ce que j'ai compris, pour le sortir en salle. Donc, peut-être qu'il y a des distributeurs qui se rendent compte, justement, qu'un film, pour avoir sa facture, que les cinéphiles lui accordent une certaine valeur, ils vont continuer à devoir le sortir... directement en salle.
Ben, un modèle qui commence à être vraiment primaire chez les distributeurs indépendants, mais qui avec quand même une assez grosse force commerciale aux États-Unis, comme disons IFC et Magnolia, c'est de faire surtout des sorties en salle et en VOD simultanées. Mm-hmm. Ce qui fait que, parce que bon, aux États-Unis, pour un plus petit film, tu vas avoir ta sortie New York, Los Angeles. Si c'est un film un petit peu plus de genre, ben Austin, parce que ça a son gros marché, peut-être Chicago, mais tu sais, c'est pas... le marché n'est pas vraiment plus étendu que ça. Mais puisqu'on parle quand même de médias nationaux, ben la revue de presse, finalement, si le film sort dans une salle à New York, mais tu as une critique dans le New York Times qui va être lue à travers les États-Unis. Donc, c'est une opportunité manquée que de ne l'avoir de disponible qu'à New York à ce moment-là. Donc, de l'avoir disponible en VOD au même moment, ben ça permet que tout le monde dans le reste des États-Unis puisse voir le film. Et puis, les gens qui habitent à New York puis qui ont le temps d'aller le voir, le film en salle, ben je pense pas qu'ils vont préférer aller le voir sur leur télévision. Ils vont se déplacer vers le cinéma.
En même temps, pour ces sorties-là, ces sorties simultanées, il y a Fun Film qui est sorti justement 2 fois une femme en VSD et en salle en même temps. Le problème, c'est que des salles refusent de le prendre.
Oui, ouais. Ce qui est dommage, c'est dommage qu'on n'ait pas Mario Fortin ici, parce que c'est vrai que le Beaubien avait...
Il voulait venir, mais il y a eu un empêchement, malheureusement.
Et le parti pris du festival et je pense celui de Fun Film, c'était que justement les gens... les citadins, ceux qui sont à Montréal, qui ont accès à la salle, vont aller avant tout dans la salle et ne vont pas le voir en VSD. La VSD, c'est pour le public qui n'a pas accès facilement aux salles. Mm-hmm. Donc, l'attitude des exploitants qui voient la VSD comme une menace, et, je pense que c'est une attitude de méconnaissance et puis de... voilà, c'est la peur de l'inconnu. En réalité, on va voir, hein, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que les deux plateformes s'enrichissent l'une et l'autre. Le sortir en DVD, c'est autre chose, parce qu'il y a le support physique quand même. Mais avoir une sortie en VSD comme fait Magnolia, ils le sortent sur quelques semaines, et puis ensuite, ils font la tournée des salles. Je pense que là, la VSD a un but promotionnel aussi, et que... ça fonctionne. C'est une très, très bonne approche.
L'un ne nuit pas nécessairement à l'autre.
Exactement.
La VOD nuit moins à la salle qu'au DVD.
Exactement. Ouais.
Si j'avais la possibilité de faire une sortie simultanée salle et VOD, je le ferais absolument. Mais c'est quand même plus compliqué là, au niveau du matériel et puis tout ça. Mais, par exemple, de faire une sortie DVD et VOD simultanée, ça, ben, c'est la première fois que je l'ai fait, c'était avec La Mer du Sud des Choses. Sinon, j'attends toujours 30 jours parce que sinon, là, oui, j'ai l'impression que ça peut nuire à ma sortie DVD qui est quand même déjà fragile.
Mais justement, le DVD, bon, j'aime pas trop l'expression, mais il serait pas porté à tranquillement s'en aller à cause de ces trucs-là parce que les gens peuvent acheter sur iTunes, ouais, et le stocker.
Ben, tant mieux la journée que ça va arriver. Non, ça, mais ça a un coût écologique. Ça fait ouais. C'est un coût pour le distributeur, c'est un coût écologique immense. La production de DVD, la production des coffrets noirs, là, c'est un désastre écologique quand tu penses à un niveau mondial.
En même temps, il y a toujours le collectionneur, parce que si le cinéphile est collectionneur.
Oui, mais on peut justement faire des éditions limitées en Blu-ray pour les collectionneurs, mais pour la grande masse des gens, c'est sûr ouais. que je pense que les formats virtuels vont
oui, supporter. C'est mais la ça, musique, bon, la musique est un bel exemple. Je veux dire, le CD est peut-être mort, mais la musique n'est pas morte. Au contraire, iTunes, avec même son idée
download.
De... On download, on achète, on ne fait pas juste pirater. Ça, c'est une autre histoire, le piratage. Ouais. Ça peut faire partie de stratégie de distribution aussi. Mais je pense aussi iTunes, avec le paiement à la pièce aussi, n'a pas tué la musique. Là. Ça a tué un format. Mais ça n'a pas tué la
même
musique.
Même je pense que ça va avoir amélioré peut-être les choses. Sûrement. Je rejette beaucoup plus de musique maintenant que je suis sur iTunes qu'avant.
Mais oui, c'est beaucoup plus facile. C'est
la transition.
Oui, oui, oui. Mais je ne sais pas si vous aviez vu à la journée sur la distribution au FNC, j'avais présenté un clip de Blockbuster, en fait, qui était paru il y a 2-3 ans sur Onion. Puis en fait, c'est un clip qu'ils font comme si, en fait, Blockbuster, parce qu'ils sont en faillite et ils vont fermer aux États-Unis. Et en fait, ça devient comme un musée, tu sais. Puis là, les gens voyagent dans le Blockbuster. Puis là, ils sont, aïe, le monde, il faisait comme 6 km de voiture pour venir ici. Puis t'étais même pas sûr que ton film allait être là. Ouais. Fait que tantôt, justement, comme on parlait de la différence entre le public urbain, en fait, un public proche de la salle et le public qui est loin des salles, je veux dire, la VSD, c'est évident que c'est, pour eux, c'est comme, wow! C'est enfin, le film vient à moi. Je n'ai pas à aller à lui. Mm. Fait que ce genre de distribution hybride, moi, je pense qu'il faut essayer d'en faire plus. Il faut essayer de convaincre les exploitants de salles. T'sais, je pense à Rip, le film de Brett Geller, qui avait été au... Ça, c'est un cas de distribution hybride documentaire où il y a eu des ventes télé. Il y a eu comme 21 ventes télé à travers le monde. Il était dans 30 festivals à travers le monde. Puis à côté de ça, il était en ligne. Puis je veux dire, c'est des différents publics qui peuvent vivre ensemble. Fait que je pense que quand chacun va bien comprendre qui sont nos publics, puis qu'on n'est pas en train d'aller en chercher un, que le festival a son public, la salle a son public, le VSD a son public, puis là, on va plutôt les additionner au lieu de... Moi, je pense qu'on est plus à essayer d'aller vers une stratégie de cohabiter ensemble plutôt que de penser qu'on va s'écraser. Parce que je pense pas qu'on s'écrase, en fait. En bout de ligne, c'est le public qui va avoir le dernier mot, là. Mais je pense qu'on est plus dans un... En tout cas, j'imagine, j'espère aller vers la cohabitation.
Oui, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas avoir peur de la technologie. Je pense qu'on ne perd rien à essayer les nouvelles plateformes, à tenter des choses. Même le piratage, je veux dire, on s'est rendu compte finalement qu'il y a eu des études qui ont été faites, qui ont été commandées par les gros studios américains. Et ils se sont rendus compte que sur des films avec une vraie portée cinématographique, le piratage en fait, jouait un rôle promotionnel énorme. On a vu que le dernier épisode du Seigneur des Anneaux... En fait, il était disponible en téléchargement pirate avant la sortie et que ça a probablement boosté les entrées salles parce que les gens avaient accès à une copie de mauvaise qualité et puis ils avaient envie de le voir en salle. Donc c'est ça, faut pas avoir peur de ces choses-là.
Ouais, mais bon, en même temps...
Je fais pas un plaidoyer sur le piratage.
Moi aussi, je vais avoir pensé à ces cas-là. L'affaire, c'est qu'il faut penser aussi dans les cas des gros blockbusters, il va y avoir l'attrait que, tu sais, c'est des effets spéciaux tellement gros que tu te dis, ah ouais, mais il faut que je le voie sur IMAX, tu sais, c'est... Et puis aussi, ben il y a des budgets de marketing, des fois, qui sont aussi importants que le budget de production du film. Donc, la population est complètement brainwashée à aller voir le film. Je pense que le piratage est beaucoup plus dommageable pour le cinéma indépendant parce qu'on n'a ni le budget de marketing pour aller compétitionner avec ça, mais de très, 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 très loin. Et puis on n'a pas l'attrait du gros écran non plus.
Ouais, c'est pour ça que la démarche que tu as faite de donner un visage humain à un distributeur, de t'engager personnellement, je pense que ça, c'est indispensable. Parce que, justement, ça donne une proximité avec les spectateurs beaucoup plus forte. Et voilà, si les gens peuvent mettre un visage sur un distributeur, ils mettent une identité sur une ligne éditoriale et c'est là où ils peuvent s'engager effectivement beaucoup plus.
Ouais, ben tu sais, je me suis dit aussi des fois on veut peut-être encourager quelque chose un peu plus une fois qu'on peut mettre un visage dessus comme tu dis parce que à un moment donné c'est pas Vocative, c'est pas un gros distributeur avec 50 personnes derrière, et puis c'est pas une grosse corporation, là. C'est moi qui ai investi le peu d'argent que j'avais là-dedans et qui perd ma chemise, tu sais. Donc, c'est une situation qui est différente, là. Il y a pas le fonds FTQ là, derrière moi pour me subventionner.